Ce matin, on va parler montagne et risque, prévention des risques en particulier, avec David et Johan qui sont venus jusqu'à nous. Ils font partie tous les deux d'une association qui s'appelle l'AFPAO 26, donc l'association de formation et de prévention des activités outdoor, donc la branche drômoise. Bonjour David.
Bonjour.
Et bonjour Johan.
Bonjour.
Alors, on est ravis de vous recevoir sur nos ondes, en particulier pour parler donc des risques des activités en montagne. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous présenter cette association, vous présenter vous et nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer cette association qui est assez jeune, je crois.
Ouais, donc bonjour à tous, moi c'est Johan. Du coup, on est quatre personnes dans cette association. En fait, on est parti d'un constat un jour en se disant effectivement l'accidentologie elle augmente et on se dit sur nos interventions, on rencontre aussi des gens et du coup, il y a des gestes qui pourraient être faits et qui sont assez simples. Et on se dit, qu'est-ce qui manque pour que les gens ils puissent faire ça, quoi.
Et dans vos interventions, puisque vous êtes pompiers professionnels tous les deux, c'est ça?
Ouais, tout à fait. On est tous pompiers professionnels et on est soit au secours en montagne, soit au secours nautique. Et du coup, on est parti de ce constat et on s'est dit, lançons-nous dans quelque chose qui permettrait d'apprendre aux gens à faire ces gestes simples et efficaces.
Donc à la fois les gestes de premier secours et à la fois aussi former les gens pour essayer d'éviter un maximum ces risques-là. David, est-ce que tu peux nous raconter donc quand est-ce que cette association a été créée ?
Elle a été créée il y a environ un an. Voilà, comme le dit Yann, par rapport au constat qu'on a fait, aussi le fait que la montagne est de plus en plus accessible, notamment avec les magasins de montagne. Et puis de plus en plus de gens vont à la montagne, donc du coup on augmente le risque. Les gens, des fois, on se rend compte qu'ils vont à la montagne ou font des activités extérieures en sandales ou ils sont mal équipés. Et du coup, on s'est dit il faut vraiment faire quelque chose pour sensibiliser les gens à la prévention. Et s'ils ont un accident, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pas aggraver la situation et sauver leurs camarades.
Donc, c'est vraiment venu de ce constat professionnel, entre guillemets. C'est un constat que partagent aussi les professionnels de la montagne, les guides, les accompagnateurs, accompagnatrices montagne.
On a vu que c'était une valeur, en fait, repérée vraiment sur au niveau autant départemental que national. Et du coup, on se rend compte que, comme dit David, la pratique, elle est vraiment ouverte à tout le monde et que du coup, l'encadrement permet de diminuer le risque. Mais on a eu aussi des demandes sur des accompagnateurs de moyenne montagne où du coup, dans leur formation, il n'y a pas forcément de personnel spécifique qui vient leur apporter ces compétences de secourisme.
Et oui, et vous êtes donc une antenne drômoise. Votre association, elle agit donc sur tout le département. On inclut le Vercors. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les zones d'intervention? Donc, vous parlez de la montagne et des milieux aquatiques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Du coup, oui, pour ma part, pour le secours en montagne, du coup, on est acteur du secours en montagne sapeur-pompier. On rayonne vraiment sur l'ensemble du département de la Drôme, que ce soit du Vercors, du Divois, des Biarronis.
Et quand on parle des risques en montagne, et en particulier dans le Vercors, donc parce que nos auditeurs sont dans le Royan et sur le plateau, c'est quoi les principaux dangers qu'on peut rencontrer, les principales prises de risques dans un milieu montagnard comme celui du Vercors, qui n'est pas un milieu de haute montagne?
On est sur un milieu qui n'est pas classé haute montagne par rapport à son altitude, mais on retrouve vachement de contraintes comme de la haute montagne qu'on pourrait retrouver notamment l'hiver à Fondurle avec des jours blancs, des températures vraiment négatives élevées, de la neige, des risques d'avalanche qui sont déjà produites. Et à la mi-saison, de la progression en rocher, les casques, l'escalade, on retrouve un peu tout ce secteur, quelques canyons. On a un secteur qui n'est pas forcément haute montagne, mais qui est assez polyvalent quand même et qui ressemble vachement.
Et donc les types d'activités les plus exposées, donc vous venez de parler de l'escalade, du canyon. Quand on fait de la randonnée ou du vélo, par exemple, du VTT en forêt, on prend aussi des risques dans ces activités-là?
Ah oui, tout à fait. Donc après, si on reprend par exemple les statistiques de 2023, les statistiques nationales, on se rend compte que déjà l'activité montagne elle se développe de plus en plus avec 300 000 nuitées officielles en refuge. Si on prend l'exemple de la Drôme, il n'y a pas de refuge officiel. Les gens vont en refuge et dorment dans des refuges sans être comptabilisés. Donc c'est vrai que l'activité montagne est en plein essor. Après, si on prend les accidents propres, sur la randonnée, on est sur 4300 personnes secourues en France, en randonnée, dont 100 décès. Et pour les VTT, on est sur environ 760 VTTistes secourus en secours en montagne. Donc après, c'est sûr que on peut décliner les différentes activités. Principalement, les causes d'accidentologie, c'est principalement les glissades chutes. Après, en randonnée pédestre, ça va être les erreurs d'itinéraire, les erreurs techniques, les conditions physiques qui sont limitées ou limitantes, et qui des gens qui se retrouvent bloqués techniquement sur des parois rocheuses ou qui se perdent, etc.
Ouais, donc il y a une multitude de prises de risques qui sont inhérents à ces pratiques-là. En fait, dès qu'on pratique une activité sportive outdoor, comme on dit, à l'extérieur, effectivement, il faut être conscient qu'on prend un risque et il faut savoir donc le maîtriser, ce risque. Donc c'est pour ça, j'imagine, que vous faites ces formations-là à la prévention, évidemment. Dans quel contexte est-ce que vous effectuez ces formations dans le cadre de votre association ?
En fait, l'idée, c'est par rapport à ce que tu dis, c'était vraiment de dire, on reprend cette prévention et de dire, ben, plus je maîtrise mon avant-course, et ben, moins je me rapproche du phénomène accidentogène, et mieux je peux le maîtriser s'il se passe. Du coup, on est sur quelque chose de complémentaire, et du coup, on veut vraiment faire une partie prévention et une partie action. Du coup, c'est pour ça qu'on organise ces sessions sur 2 jours, où du coup, on peut faire vraiment une journée théorique, et du coup, on apporte du secourisme, comment faire un bilan en moins de 2 minutes pour savoir si notre victime, eh ben, du coup, elle risque de mourir, il faut que je fasse des gestes qui peuvent lui sauver la vie. Comment je peux faire pour attendre les secours, parce que du coup, on sait qu'en milieu montagne, les délais, ils sont assez longs. Et du coup, mettre en place un peu tout ça, mais aussi dire, ben, dans ma préparation de course, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je dois anticiper, comment je la partage avec le groupe, et de se dire, bon, ben voilà, dans la situation, ben, est-ce qu'il y en a une trousse à pharmacie pour tout le monde, est-ce que tout le monde est au courant de la météo, est-ce que tout le monde est au courant de l'effort, est-ce que tout le monde a le niveau de faire cette course, et de se dire, bon, ben ok, tous les feux sont ouverts, on peut y aller.
Et donc, ce sont des formations en 2 jours, tu viens de dire, donc théorique et pratique. Dans quel cadre ? Est-ce que c'est des particuliers qui vous sollicitent pour faire cette formation ? Des professionnels ? Des clubs de sport peut-être, puisqu'il y en a quand même pas mal dans le coin ?
Ça gagne. Du coup, c'est comme c'est les jeunes, ben, on n'a pas encore beaucoup de retours, mais pour l'instant, ben, il y a des clubs professionnels comme le CAF, par exemple, qui nous ont sollicités. Après, des clubs de randonnée aussi, qui, ben, leurs adhérents sont toujours encadrés par quelqu'un. Mais le problème, c'est que si ce quelqu'un se blesse, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Parce que bien souvent, c'est bien d'être encadré porté, mais le but, c'est aussi de pouvoir être autonome dans sa sortie. Et après, il y a de plus en plus de gens qui partent seuls. Et voilà, donc le but, c'est aussi de leur faire comprendre que partir seul, c'est bien, mais de préparer, c'est mieux. Donc voilà, ben, sur le risque nautique, il y a beaucoup de gens achètent des paddles de plus en plus. Et ben, partir sur la bourne, c'est bien, mais comment on le fait pour le faire en sécurité ? Un gilet de sauvetage, un casque, une corde de sécurité. Et qu'est-ce que je fais si je suis en difficulté ? Est-ce que j'ai préparé ma sortie ? Est-ce que j'ai prévenu un proche, par exemple, savoir où c'est que je me trouve ? Comment je me retrouve ? Des coordonnées GPS. Et donc voilà, ça fait une multitude de gens qui peuvent être formés ou préparés, et donc on est là pour eux.
Et voilà, tu viens de citer donc la bourne, par exemple, donc dans les sports nautiques, les sports aquatiques. On peut citer l'Isère aussi, donc j'imagine que le contenu de vos formations, il est aussi appliqué au milieu. Peut-être que vous parlez un peu des milieux. Quand on parle de la bourne, on se dit que c'est pas non plus une rivière qui doit être si dangereuse que ça, mais finalement elle présente aussi des risques. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme risque quand on va dans la Bourne, quand on s'aventure un peu dans les rivières du Royan ?
Eh ben après, il y a tous les risques qu'on va retrouver dans n'importe quelle rivière, j'ai envie de dire. Mais après, comme quand on prépare pas sa sortie, on peut se retrouver face à un barrage, notamment.
Et oui, il y en a plusieurs sur la Bourne.
Voilà, tout à fait. Et dès qu'on se retrouve sur un barrage hydroélectrique ou une retenue d'eau, ben il y a le risque de se faire emporter, coincer, et donc de se retrouver en difficulté, voire même de mourir, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il est important de reconnaître l'itinéraire qu'on va emprunter, déjà de savoir si on a le droit ou pas de l'emprunter. Et après, bah, y a tous les risques propres à ce qu'on appelle l'eau vive, donc les risques de coincement, les risques de choc, etc., etc.
Ouais, donc c'est des formations qui sont bien appliquées. Si des clubs ou des individus, des groupes d'individus ont envie de vous solliciter pour faire une formation, comment ça se passe ? Il y a un protocole à suivre ?
Il y a une adresse mail, on nous fait un mail, et donc c'est afpao26@gmail.com. On fait des sessions entre 6 et 10 personnes, parce qu'il faut quand même qu'on puisse animer aussi ces sessions et que les gens puissent pratiquer et échanger. Donc voilà, là on est sorti d'une formation avec la FFCAM ce week-end. On a une demande pour les éco-gardes du département, donc du coup on va aussi faire un milieu isolé, mais pour les professionnels, où du coup ben, les gens ils sont tout seuls dans la montagne. Ben, les élagueurs qui sont au milieu du plateau du Vercors à couper des arbres, s'ils s'entament la cuisse, ben, qu'ils soient capables de se poser un garrot, d'avoir une action qui peut vraiment leur sauver la vie en étant tout seul. Et on va faire par exemple une famille aussi qui nous a demandé de faire les parents, les grands-parents et les petits-enfants, quoi. Du coup, on a vraiment tout public et on trouve ça vraiment chouette de pouvoir sensibiliser un peu toutes les générations aussi.
Donc on parle à la fois d'anticipation et de bien appeler les secours. Parce que c'est vrai que quand on appelle les secours, il y a un protocole un peu à suivre. Ça, c'est des choses que vous évoquez aussi ?
Tout à fait, oui, parce que c'est un peu la base du secourisme, l'alerte. Et en effet, plus vous alertez correctement, bah, plus les secours sont à même de savoir où vous vous trouvez et surtout bah, qu'est-ce qui vous arrive. Et pour donc engager les bons secours sur l'intervention.
Et oui, parce que vous disiez que vous étiez tous les deux pompiers professionnels. Qu'est-ce qui vous a amené justement, vous, en tant que professionnel, à vouloir faire un petit peu un pas en arrière et faire de la prévention à ces milieux-là ?
Après, comme l'avait dit Johan, c'est qu'en fait, on se rend compte que des fois, malheureusement, les gens ne font rien jusqu'à l'arrivée des secours. Et c'est malheureusement là que c'est délétère pour la victime. Donc si on, les gens font, bah, généralement, ils le feront bien. Parce qu'ils bah, feront mieux que rien. Donc c'est toujours mieux que ne rien faire. Et donc, ils amélioreront l'état de la victime. Donc c'est bien souvent dans ce moment-là où, notamment sur l'arrêt cardiaque, si rien n'est fait jusqu'à l'arrivée des secours, et ben, on diminue les chances de survie de la victime. Parce qu'on considère qu'en 10 minutes, on va avoir 4% seulement de chances de survie pour la victime. Alors que si on fait quelque chose jusqu'à l'arrivée des secours, on peut augmenter jusqu'à 40% de chances de survie les chances de la victime.
Ouais, donc c'est une volonté de sensibilisation et d'amener de plus en plus de monde à maîtriser ces gestes, ces premiers gestes. Il y a combien de personnes dans votre association qui sont avec vous, à vos côtés ?
On est quatre, du coup, trois du milieu montagne et un du milieu aquatique. Et après, on se répartira toujours deux formateurs sur chaque session, ce qui permet quand même d'être garant de la qualité de la formation. Et l'objectif, c'est quand même que les gens appellent, se cherchent des coordonnées GPS. Donc du coup, nous, en face, on peut mettre des personnes qui prennent aussi des appels au secours en montagne. Donc du coup, dans la discussion et dans l'échange, en fait, quand les personnes sont en face dans la formation, ils ont un vrai échange, ils ont une vraie relation avec les personnes qui prennent ces appels.
Et c'est toutes des personnes donc qui habitent le milieu drômois, enfin l'environnement drômois. Et donc justement, quand il y a un accident en montagne, on pourrait imaginer que c'est les secours de Saint-Jean qui pourraient arriver. Mais en fait, non, ça va plus loin, puisque vous disiez que vous êtes plutôt du côté de l'Hermitage, Austin.
Oui, du coup, en fait, c'est une organisation un peu plus départementale qu'on est sur des équipes spécialisées. Et du coup, il y a des acteurs locaux, des sapeurs-pompiers locaux qui vont intervenir. Par contre, suivant les risques du milieu, ben les locaux sont pas forcément formés aux risques du milieu. Et du coup, c'est là où on dépêche, on va dire, des équipes spécialisées.
Oui, donc vous avez tous des spécialités. Vous parliez de milieu aquatique, milieu montagne. Ça, c'est des choses que vous, en tant que pompier, vous faites des formations petit à petit pour vous spécialiser là-dedans ?
Tout à fait. Donc, on a le tronc commun comme tout pompier, en fait. Donc, le secours à personne, l'incendie, etc. Et après, on se spécialise en fonction de nos appétences au milieu. Donc nous, Johan, lui, c'est la montagne. Moi, ça serait plus le milieu aquatique. Et après, le milieu aquatique, et comme il y a différents systèmes, en fait. Après, tout dépend. On peut faire donc de l'eau vive. Mais après, il y a aussi les inondations. Tout est possible. Donc ça met un domaine de compétences assez large, comme la montagne.
C'est ça, c'est assez polyvalent et du coup sur la montagne on va faire un module commun, on va dire été, et du coup on va voir tout ce qui est escalade, progression en arête, randonnée, ainsi de suite. Et après on refait un module spécifique à la formation neige et on refait un module spécifique à la formation canyon.
Ouais, donc c'est hyper varié et je reviens un peu sur cette saisonnalité de la prise de risque. Dans notre imaginaire, on se dit que l'hiver doit être beaucoup plus risqué pour ces phénomènes d'avalanche, de glissade, de dévissage et compagnie. Mais est-ce que l'été présente aussi des risques, autant de risques que l'hiver finalement ?
Oui, parce que si on regarde bien par exemple pour la montagne, beaucoup de gens vont s'équiper facilement chez des loueurs en activité de via ferrata, si on prend l'exemple de la via ferrata, et ils vont s'engager sur des voies sans forcément savoir qu'est-ce qu'ils font finalement, parce que à part la signalétique qui est présente sur les via ferrata, ils ont des fois peu d'informations sur comment ça marche, comment ça fonctionne et comment on utilise leur propre matériel. Et c'est là qu'on se retrouve sur de l'accidentologie, c'est des gens qui se retrouvent suspendus lors des tyroliennes parce qu'ils peuvent plus attraper le câble et se tirer eux-mêmes. Et ce qui fait que mon collègue se retrouve à intervenir des fois.
Et oui, donc il y a vraiment cette notion de connaître ses propres capacités et le terrain dans lequel on va évoluer. Et puis il y a aussi les aléas naturels, qu'il s'agisse de chutes de pierres, d'une inondation. Ça, c'est des choses qui arrivent peut-être de plus en plus aussi avec le changement climatique, la notion d'aléas extérieurs, d'aléas naturels.
Ouais, il y a les aléas naturels, dus aussi à pluie, chaud, et du coup, il y a une transformation quand même du rocher qui est derrière. Voilà, le regel, des gels qui changent aussi beaucoup le caillou, quoi, qui bouge vachement. Puis on est sur quelque chose qui est quand même de calcaire. Donc, du coup, on sait que c'est quand même des rochers qui bougent. On n'est pas sur du granit, comme on pourrait retrouver dans le massif du Mont Blanc, où c'est quand même quelque chose qui s'effrite vachement moins.
Et ça, vous en parlez dans les formations, notamment ce rapport au milieu spécifique au Vercors ?
Ouais, on en parle et on en tient compte. Et du coup, voilà, tout l'intérêt de dire, on fait une rando alpine. Oui, c'est de la randonnée, mais il faut mettre un casque, même si c'est des choses qu'on voit pas forcément. Et dire, la chute de pierre, elle peut arriver par le dessus, même si je marche, quoi.
Et côté rivière, donc là, pareil, tu disais tout à l'heure, il y a des barrages. Et en tant que baigneur, baigneuse, l'été, on va souvent s'aventurer dans des petits trous d'eau qu'on a trouvés. Et la question revient souvent des lâchers de barrages. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se pratique encore dans les rivières du Royon? Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus, sur la question des lâchers de barrages et du coup d'une arrivée d'eau un peu soudaine
Alors, c'est vrai que sur la Bourne, il y a peu d'eau l'été. Là, c'est l'avantage qu'on a aussi. Donc, il y a peu de lâchers de barrages parce que l'eau est principalement détournée sur l'irrigation, notamment du maïs. Donc après, il y a peu de lâchers de barrages l'été, plus l'hiver. Après, malheureusement, l'hiver, les gens sont généralement au courant parce que c'est principalement les pêcheurs qui s'aventurent dans les lits de rivière. Après, il y a cette bande des 300 mètres où il faut éviter de s'aventurer parce que c'est l'endroit où l'eau va monter le plus vite. Mais après, il n'y aura pas forcément de système d'alerte comme on peut en connaître avec des cornes de brume ou autre. Voilà. Donc après, il faut être juste prudent avec le milieu, savoir où on s'aventure principalement.
Et donc, Johan, est-ce que tu peux revenir sur les chiffres donc qui concernent le Vercors, les chiffres du nombre d'interventions?
Ouais, donc du coup, en gros, en 2023, on a eu 150 interventions au total. Et en 2024, 192, donc du coup, on voit une forte hausse. Et en gros, sur 192, il y en a au moins 50 qui ont nécessité des techniques d'alpinisme pour pouvoir extraire les gens, quoi.
Ouais, donc c'est quand même un chiffre à prendre en compte et qui n'est pas anodin. Au niveau de l'environnement, donc du milieu dans lequel on évolue, est-ce que tous les départements, David, sont égaux? Est-ce qu'il y a autant de signalétique, de mise en place d'informations au début des courses?
Du coup, on va parler uniquement de la Drôme, parce que c'est quand même le département où on vit. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même un très beau département où on regarde, notamment le conseil départemental agit sur le développement du tourisme. Et c'est vrai qu'on a quand même un beau département dans le sens où il y a beaucoup de randonnées, de rando VTT qui sont signalées, balisées. Donc, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de pratiquants qui y vont, et c'est une chance. Donc, c'est pour ça, grâce à eux, on développe la prévention des risques, mais aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres acteurs qui le font aussi, et très bien.
Et du coup, voilà, en complément, le département et même l'État mettent en place l'application Suricat, qui est complémentaire à ce balisage, en disant, voilà, il y a du balisage, mais rien ne peut être parfait, et du coup, l'application Suricat, elle sert aussi à signaler ces dangers de balisage, qui peut être aussi un tronc au milieu d'une rivière, défaut de marquage sur des voies d'escalade, ou du coup, voilà, c'est vraiment une application pour signaler un défaut sur une activité sportive. On le signale et en fait, après, il y a des personnes qui vont relayer l'information pour qu'elle soit traitée.
Et ça va être traité donc par les référents des services à l'échelle du département qui vont venir soit enlever un tronc, soit remettre un petit coup de peinture, c'est ça?
C'est ça, ils vont se rapprocher des personnes compétentes pour régler le problème. Et du coup, alors après, ça ne sera pas forcément dans les 3 jours, mais voilà, c'est forcément remonté, c'est pris en compte. Et du coup, après, l'objectif, c'est de le traiter et de corriger le défaut pour pas que ça se reproduise. Des défauts de balisage, des défauts de marquage, des obstacles au milieu de rivière, de chemin, et ainsi de suite.
On a parlé beaucoup de votre formation, du module de formation en 2 jours que vous proposez, mais vous proposez aussi d'autres modules qui sont plus légers, plus simples et peut-être plus spécialisés sur une thématique. C'est un format conférence.
C'est ça. Du coup, en fait, on fait des petites conférences, notamment avec la salle d'escalade à Zerouf. On en a déjà réalisé une sur l'hypothermie. Et l'objectif, c'est qu'on réitère ces petites conférences un peu régulièrement dans l'année à différents endroits pour qu'on puisse aussi nous partager des petits éléments clés et sensibiliser aussi les personnes sur certains éléments.
Et donc là, vous avez parlé d'hypothermie, c'était une demande de la salle d'escalade The Roof, donc c'est à Bourg-de-Péage?
Tout à fait, c'est la The Roof Vercors à Bourg-de-Péage. Du coup, ça a été un échange qu'on a eu un peu avec eux. On était dans une période hivernale et on se rend compte que les gens, ils mettent tous la couverture de survie sur leurs épaules et au final, il n'y a pas forcément de plus-value pour la victime. Et il y a des façons de pouvoir bien la poser. Et on s'est dit, en fait, effectivement, c'est un thème qui marque tout le monde, cette couverture de survie. Du coup, on s'est mis dans l'hypothermie, qui est un gros facteur aggravant de la victime.
Et ça, c'est pareil, c'est des choses, on peut vous solliciter, on peut venir vous contacter en disant, moi j'aimerais faire une conférence, j'ai un club de VTT ou je fais du VTT avec mes amis, j'aimerais qu'on parle d'un point très spécifique.
Ouais, tout à fait, faut pas hésiter à nous contacter et voilà, si on peut apporter un thème, on le fera sous forme de conférence. L'objectif, c'est quand même qu'on boycotte pas totalement nos cours, donc on apportera quand même quelques points clés parce que l'intérêt, il est quand même d'apporter des éléments et pratico-pratiques. Mais voilà, sans souci, on peut apporter sur un thème précis, sur la demande.
Et justement, un petit rappel sur les numéros à contacter quand on est en montagne. Il y a aussi souvent la question du réseau. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner là-dessus?
Oui, alors d'aujourd'hui, dans le département de la Drôme, le numéro pour le secours en montagne, c'est le 112 qui retombe chez les pompiers. Et du coup, la prise d'appel sera là. Du réseau par le 112 sur le département, on en a quasiment de partout. Où il suffit de se déplacer de 100 à 200 mètres d'un endroit où on est vraiment hors zone pour arriver à en avoir. Et après, sur les massifs qui sont vraiment extérieurs, après, il y a de la radio et ainsi de suite, avec des fréquences pour pouvoir appeler les secours.
Et il y a une petite notion qu'on n'a pas abordée donc sur ces formations donc qui durent 2 jours. Est-ce que ces formations sont payantes pour les particuliers, pour les clubs? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites financer?
Ouais, l'objectif en fait de ce financement, c'est de se dire, ben nous on puisse s'équiper aussi en matériel de secourisme, qu'on a un chalet en fait qu'on nous prête pour pouvoir faire ces formations et dormir sur place. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on demande une participation de 150 € par personne. Ça nous aide, voilà, à nous équiper, à entretenir le chalet, à améliorer le chalet et ainsi de suite, et améliorer la formation aussi, parce que du coup, ça a vite un coup.
Et ce chalet, donc, il est où
Sur Burger Barré.
Ok, après, donc la formation se trouve dans ce chalet.
Ouais, on fait ces 2 jours là-bas. Le chalet, c'est vraiment le camp de base où on pose notre matériel, on fait nos cours et ainsi de suite. Et après tout gravite autour. Et voilà, si jamais après on a des demandes extérieures, c'est un peu le cas, ça ne nous empêche pas d'aller à l'extérieur ou sur un autre lieu comme les éco-gardes. Normalement, on ira sur le massif du Vercors. Voilà.
Donc à chaque fois, vous vous adaptez à la situation. Comment est-ce que... Aussi, on peut soutenir l'association. Est-ce que vous acceptez les dons? Est-ce que vous avez des adhésions aussi, peut-être, comme toute association?
Du coup, on ne fait pas d'adhésion concrète à l'association. Les seules adhésions et les membres de l'association, ça sera forcément des formateurs secourisme et qui sont attachés soit au secours en montagne, soit au secours nautique. Par contre, oui, il est possible de faire un don à l'association avec grand plaisir.
Est-ce que tu peux rappeler l'adresse mail?
Ouais, alors l'adresse mail, c'est afpao26@gmail.com. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous faire un mail et on répondra... pour que ce soit pour un sujet de don ou de formation, avec grand plaisir.
Et on remettra l'adresse mail donc de l'AFPAO, l'Association de Formation et de Prévention des Activités Outdoor 26, donc pour la Drôme, en contact sur notre article internet. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous aviez envie de communiquer?
Non, donc on est aussi présent sur les réseaux, on aura un site internet qui est à son balbutiement, il débute juste, et puis on a une page Facebook, donc voilà, après pour nous joindre, il y a aussi ces réseaux-là, si besoin.
Et ben, on va aussi relayer. Merci beaucoup à vous deux, David et Johan, pour être venus au micro de Radio Royan Vercors présenter donc votre association et puis bah voilà cette nécessité de la sensibilisation et de l'apprentissage du milieu montagnard, comme vous disiez. On se dit à bientôt et on vous souhaite de belles formations pour les prochains temps.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous deux.